Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus, soyez tous bénis. Et le thème de cette année, c'est « Sois bénédiction ». Donc moi, j'ai l'habitude de me promener comme ça, mais là, il y a des prises de courant, il y a tout ça, il faut que je fasse attention. Il faut que je reste à ma place, en fait, il ne faut pas que je me promène. Alors, être bénédiction, eh bien, on va parler de ça aujourd'hui. Avec j'ai mis pour titre « Aimer pour être bénédiction ». On y va, vous êtes prêts? On va commencer par lire la Bible, Jean 13, versets 34 et 35. À Jean 13, versets 34 et 35. C'est facile à trouver, hein. « Je vous donne un commandement nouveau, nous dit Jésus. » C'est sympa parce qu'il démarre comme ça pour bien dire « Faites attention, hein, c'est nouveau, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Aimez-vous les uns les autres ?» Bah, quand même, bah, Jésus quand même, aimez-vous les uns les autres ? Bon, on sait faire, nous, on est entre nous, là, on s'aime tous les uns les autres. Ouais, écoute-moi jusqu'au bout. Ah bon, d'accord, Jésus, excuse-moi. « Comme je vous ai aimé. » Ah ça, oui, là du coup, c'est une dose d'amour. Là, il y a du niveau. Hein, « Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ouais, c'est tout un programme, finalement, là, que tu nous dis, là, Jésus. « Et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Certains diront, « C'est pas que pour ça. » Mais Jésus, il dit, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc on a intérêt quand même à suivre ces recommandations. En disant, en précisant, qu'on reconnaîtra si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc avoir de l'amour les uns pour les autres, enfin d'être reconnu comme disciple de Jésus aussi. Mais on sent bien que ça ne va pas être si facile que ça. Donc c'est un commandement qui est quand même bien particulier. On peut en conclure que Jésus, il savait bien que dans notre cœur, aimer, c'est pas si facile que ça. Alors, ben il précise quand même qu'il faut suivre ce commandement. Il ne faut pas faire comme si on dit « Oui, ben nous on s'aime, c'est bon, il n'y a pas de problème, Jésus, on file, ça marche. » Alors dans l'Église, on peut s'identifier peut-être un peu plus facilement à ce commandement de s'aimer. Hein. On peut prendre des nouvelles les uns des autres. De temps en temps, prendre le téléphone. Tiens, comment tu vas? Certains se rencontrent aussi dans les groupes de maison. Alors, ça permet de pouvoir mieux se connaître, mieux s'apprécier, de pouvoir s'entraider aussi. Hein, et puis ça, malgré les qualités et les défauts des uns des autres. On apprend à se connaître. Et ça, c'est déjà une étape importante pour pouvoir regarder l'autre avec bienveillance et amour. Alors bon, plus l'Église grandit, hein, il y a des personnes nouvelles qui viennent, soit juste pour un dimanche, soit pour plus longtemps. On commence, même si ça reste une petite Église bien sympathique où nous sommes, il y a quand même du monde, on ne connaît pas tout le monde. Et c'est plus difficile de répandre cet amour fraternel. Alors, ce qu'il y a en plus, c'est qu'on vient chacun dans cette église avec notre histoire, avec nos bagages. Et on a tous une histoire différente, on n'a pas la même façon de vivre, on n'a pas les mêmes idées non plus. Il faut même parfois éviter de parler de politique, hein, on n'est pas là pour ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Et puis même parfois, et c'est ça qui est sympa, ici entre autres, mais ailleurs aussi, c'est qu'il y a des frères et sœurs qui viennent de pays différents. Et ça, moi je trouve ça génial. Je fais souvent la réflexion, quand on voit la louange par exemple, il y a des gens qui viennent d'horizons différents. Et tous sont là pour louer le Seigneur ensemble. C'est génial, c'est vraiment génial. C'est vraiment c'est une force. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui nous rassemble. Mais de venir de pays différents, avec des coutumes et des pratiques différentes, ben ça peut nous plaire, ça peut être sympa, ça peut nous interroger, mais ça peut aussi nous déplaire, parce que ça peut nous bousculer dans nos habitudes. Il y a dans des églises, pour être allé voir de temps en temps l'église du frère Timothée, comment qu'elle s'appelle ? Les Rachetés de l'Éternel. Ah ben, si vous n'êtes pas habitué, hein, là il disait que je parlais fort tout à l'heure, mais là il y a du décibel. Hein, quand ils chantent. Hein. Dans les environs, ils savent qu'ils chantent. Hein. D'ailleurs, le pasteur nous disait, même chez moi, quand il habitait en appartement, les voisins, ils savaient que j'étais là, parce que dès le matin, ils chantaient de bonne heure. Donc, il y a même une de ses voisines qui lui a dit, ah, c'est vous qui chantez le matin ? Oui, je vous dérange peut-être ? Non, non, c'est très sympathique, j'aime bien. Hein, bon, il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas descendus lui dire, il faudra peut-être faire moins de bruit. Hein. Mais enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a des pratiques différentes. Et que parfois, ça peut nous déranger. Et quand on est dans une église, effectivement, où ça danse, ça chante et ça bouscule, ceux qui sont plutôt réservés vont se dire « Mais c'est quoi tous ces excités-là ? C'est pas une église... C'est des frères et des sœurs, mais quand même, hein ?» Alors là, déjà, on se dit « Bah tiens, et l'amour, il est où, là ?» Non, mais c'est pas facile, hein ? On en rigole comme ça, parce que bon, faut bien... Des fois, on peut rigoler de soi-même, hein, de voir comment on est. Mais est-ce qu'on a un amour sans limite, comme nous l'indique la parole ? Alors, cette question de l'amour, elle peut paraître au préalable comme une évidence. Il faut nous aimer les uns les autres, puisque Jésus nous a aimés le premier. Eh bien, on doit aimer à notre tour. Ça paraît évident. Et puis d'ailleurs, c'est souvent de cette manière-là qu'on le présente. Il va... Jésus m'a aimé en premier, donc il faut que j'aime les autres. Si, vous l'avez dit vous aussi. Hein. Vous l'avez dit, pratiquement à quelques mots près, c'est ce que vous avez dit aussi. Mais il y a un truc qui gêne quand même dans les mots qu'on emploie. Ça ne devrait pas être « nous devons » nous aimer, mais simplement être dans une attitude de cœur qui nous aide à aimer. C'est pas tout à fait pareil. Sinon, on fait semblant. Enfin, j'exagère un peu, hein, vous me connaissez. Mais on n'est pas là pour faire semblant. Il y en a même d'ailleurs qui disent, mais c'est les chrétiens, ils ont le sourire. Alors, ça peut être catho et protestant, hein, pareil, hein, on ne va pas chipoter. Mais parce qu'on a dit, il faut être joyeux avec Christ. Donc, ils sont là, ça va, ouais, ça va bien, hein, je suis plein de galères, mais je souris quand même. S'ils savaient. Non, parce qu'il ne faut pas montrer qu'on ait des problèmes. Sinon, ils vont se dire, bah, ton Dieu, il ne fait rien, tu es chrétien, et puis ton Dieu, il ne fait rien, donc on est obligé de sourire. Bah, non, ça ne va pas bien tous les jours. Donc, il ne faut pas faire semblant. On vient comme on est et on vit comme on est. Bon, on peut quand même sourire quand on se voit, parce qu'on est content de se voir, hein. Moi, je suis content de vous voir ce matin, en tout cas. Alors, on va regarder ce que nous écrit Paul dans la lettre aux Corinthiens. Il dit plein de trucs vachement intéressants, quand même. Paul, pas que lui, hein, mais c'est quand même intéressant. Au chapitre 13, mais il a cru bon de nous indiquer ce qu'était l'amour. Comme quoi, c'était pas si évident que ça. Hein. Quand Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres, il y a Paul qui dit, bon, bah attends... Je vais quand même écrire 2-3 bafouilles pour expliquer un petit peu. 1 Corinthiens 13 au verset 4. L'amour est patient. Pas comme moi, hein, je ne suis pas toujours patient. Il est plein de bonté. C'est bien. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Vous notez, hein, parce que je vais vous interroger après. Hein, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bon, c'est une liste qu'on connaît quand même dans les grandes lignes, hein, même si on ne la connaît pas par cœur. Est-ce que notre amour envers notre prochain correspond à cette description ? Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre pour l'instant, parce que pour l'instant, je me pose la question à moi-même déjà. Bon, moi, je ne veux pas porter un jugement sur votre capacité à aimer, mais je me questionne, moi, sur ma capacité à aimer. Alors, autant que je vous le partage avec vous aujourd'hui, comme ça, on peut avancer ensemble. Je pense qu'on a besoin de grandir dans notre capacité à aimer. Alors, on le sait, hein, toute notre vie, on doit évoluer, nous fortifier par la parole de vérité qui est inscrite dans la Bible. Mais pour ça, il faut être aussi enseignable, être humble et chercher à grandir continuellement. Non, moi c'est bon, j'ai déjà évolué suffisamment, je connais quand même un peu la Bible. Bon, je ne peux pas la réciter par cœur, mais ça va. Non, ça ne va pas. Il faut qu'on grandisse tout au long de notre vie. Il nous faut grandir. Et puis, il faut qu'on apprenne aussi à voir l'autre avec les yeux du cœur, les yeux de Jésus. D'autant que la parole, elle va encore plus loin. Bah oui. Là, c'est Matthieu. Matthieu, il n'était pas forcément à la mode par chez lui parce qu'il était collecteur d'impôts. Bon, déjà, ça ne plaisait pas beaucoup. Bon, alors, s'il y a des gens qui travaillent aux impôts, vous inquiétez pas, on ne vous en veut pas. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le collecteur d'impôts, il travaillait pour César. Donc, ça plaisait moyennement quand même. Payer des impôts pour son propre État, ça reste quand même quelque chose d'un peu normal. Voilà, ceci dit, donc, s'il y en a qui travaillent aux impôts, ne vous inquiétez pas, on ne vous en veut pas. Alors, il dit dans Matthieu 5, verset 43... Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. J'ai posé qu'il a été cherché ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Oh, punaise. Moi, on n'avait pas dit ça au départ. On m'a dit d'aimer. C'est plus facile d'aimer des gens qui sont sympas avec soi, hein. Et il continue, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il exagère, lui. Afin d'être les fils de votre Père céleste. Un petit peu plus loin, il dit, regardez bien, les gars, si vous, et les filles aussi, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et là, il parle en connaissance de cause. Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Bon, déjà, il faut quand même se saluer entre nous. Hein. Bon, les membres des autres peuples agissent-ils pas de même? Bref, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oh, dis donc, encore un niveau supérieur. Bon, quand on lit ça, on pourrait avoir tendance à vouloir mettre un petit peu de côté certaines parties de ce message. Non mais ok, mais c'est trop dur pour moi. Faut quand même pas pousser. Aimer ses ennemis. Non mais faudrait peut-être pas exagérer quand même. Faut reconnaître que c'est pas évident. Alors, si la Bible nous informe et nous alerte de la sorte, c'est qu'il y a un enjeu puissant. Si Jésus nous donne ce commandement, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il connaît nos cœurs. Et en plus, il envoie ses anges pour vérifier aussi nos cœurs. Il sait que nous avons besoin d'évoluer dans l'amour, voire même de connaître le véritable amour. Vous remarquerez que définir l'amour, certes, on a lu un passage tout à l'heure, mais si vous demandez même à vous les uns les autres de définir l'amour, waouh, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de mettre des mots sur ce qu'est l'amour véritable. Mais Jésus, il ne nous donne pas de commandement impossible. Ça, c'est important. Moi, je crois qu'il veut nous attirer à lui ressembler chaque jour davantage, un peu plus chaque fois. Il me semble que nous sommes amenés à devenir progressivement, bien sûr, les imitateurs de Christ. D'ailleurs, lui-même, dans ses enseignements, nous dit que nous ferons de plus grandes choses encore que ce qu'il a fait et de ce qui est écrit dans la parole. C'est dans Jean 14, 12, je vais le lire parce que je l'aime bien celui-là. Il n'y a pas que ce verset-là que j'aime bien. Hein. Mais en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Donc ça, c'est fait, il est allé vers le Père, ils ont envoyé son esprit qui vit en nous, amen, ça c'est super, donc on peut faire des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait. Et l'amour et la compassion font partie de ses œuvres. Je crois que ça fait partie des caractéristiques de Jésus. Quand on pense à Jésus, quand on parle de Jésus, je pense qu'on peut parler de son amour et de sa compassion. Alors comment grandir dans cet amour inconditionnel ? Ben, j'ai envie de vous lire une fois de plus Jean 15. Je dis une fois de plus parce que j'ai déjà cité quelques fois ici, et on y revient, parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Puis en plus, Jean 15, vous avez au verset 1, vous avez le temps d'ouvrir votre Bible, le temps que je parle un petit peu, pour pouvoir le lire avec moi. Donc c'est une histoire de cep et de vigneron. Vous connaissez l'histoire, mais je vais la lire quand même. « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. » Coupe des branches. « Afin qu'il porte encore plus de fruits. » Pour ceux qui travaillent dans l'agriculture ou pour avoir des fruits, pour avoir des pommes. Faut tailler un peu, faut soigner ces arbres. Il y a un gars qui s'y connaît là-bas. Et il précise après, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Waouh ! « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » On va y revenir. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il précise, des fois qu'on n'aurait pas compris, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, en même temps, il nous connaît. On a tendance à dire, Seigneur, on va faire, parce que je sais faire, et puis tu vas bénir ce que je suis en train de faire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Non, non, parce qu'on a tendance... Mais c'est dingue comme ça nous rattrape. Hein. On a beau avancer au fil des années, enfin je parle pour moi, vous l'aurez compris, au fil des années, d'avancer avec les seigneurs, mais de temps en temps, vouloir l'associer à mes projets. Non, non, faut s'associer, faut être ouvrier avec lui. Pour lui, c'est ouvrier. Un ouvrier, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Sans lui, on ne peut rien faire. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ok. Jésus est le chemin, la vérité et la
vie.
Oui, c'est ça, il y en a encore quelques-uns qui me suivent, ça va. C'est lui le cep sur lequel nous sommes greffés. Et puis, notre Père Céleste, lui, il vient entretenir la vigne. Alors, ok, on avance. Dans la première partie, je le dis comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je comprends comme une explication sur la différence entre chrétiens et disciples. Les deux sont sauvés, mais tous les disciples sont chrétiens, disciples de Jésus, sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas disciples. Le chrétien accepte Jésus comme sauveur et maître en se basant sur la parole, et il en reste là. Il a déjà fait une bonne partie du chemin, c'est génial. Mais le disciple, il va plus loin, car il met en pratique et vit la parole de Dieu. Dans la deuxième partie du verset 2, Dieu forme le disciple pour qu'il soit plus fort et qu'il porte du fruit. Donc il émonde, il coupe des branches. Bon, quand on dit ça comme ça, imaginez bien. vous portez des choses en vous qui ne portent pas du bon fruit. C'est valable chez moi aussi. Donc, il faut lui demander, viens couper ce qui n'est pas de toi pour que tu grandisses en moi. Couper, ça ne fait pas toujours du bien. Il faut le demander quand même. Dans certains champs, d'ailleurs, on dit « Seigneur, je te donne tout ». Bon, moi, je dis « Seigneur, aide-moi à tout te donner ». Bon, il faut être honnête. Hein, on ne donne pas tout d'un coup. Si vous y arrivez, ben, vous êtes... Mais non, mais c'est super. Voilà. Dans le verset 3, il s'est affirmé, et ça c'est génial, que nous sommes purs à cause de la parole qui nous a été annoncée et que nous avons acceptée dans notre vie. Alors, cette partie-là aussi est importante parce que ce n'est pas par nos propres efforts que nous sommes purs et que c'est par grâce, on le sait. Mais à un moment donné, quand on veut être disciple et qu'on veut avancer avec Jésus, qu'on veut le suivre, qu'est-ce qui se passe ? L'adversaire, il dit « Non, mais tu t'es regardé. Ouais, t'es chrétien, d'accord, mais bon, quand même. T'as vu ton cœur ? T'as vu dans l'état que tu es ? Tu vas pas aller plus loin. T'es un petit chrétien. » Parfois, c'est murmuré dans votre oreille. Ça, c'est embêtant. C'est l'adversaire qui vient glisser des mots pour nous empêcher d'avancer, de servir et d'être ouvrier avec Christ. Il faut se rappeler, et c'est pour ça que Jésus il le dit, vous êtes purs. On a été purifiés. Alors ne vous regardez pas comme impurs. Vous êtes purs. Amen. C'est précisé dans Romains 3, versets 22 à 24. Je le lis directement. Vous le retrouverez dans vos Bibles. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire, et, attention, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose, c'est par grâce. Jésus, il a porté nos péchés. Il ne faut pas l'oublier. Alors nous sommes déclarés justes et purs par Jésus, on vient de voir. Nous avons donc cette cuirasse de justice. Tu as un petit rappel par rapport quand on avait parlé de tout l'attirail du combattant que nous sommes pour Christ. Non pas, c'est pas par nos propres efforts que l'on va avoir cette cuirasse, mais par notre certitude que nous avons été déclarés justes par Jésus lorsque nous l'avons reçu dans notre vie. Il ne faut pas en douter, parce que quand on en doute, on met notre cuirasse par terre. Donc il faut vraiment ne pas en douter. En douter, vous êtes juste, et donc dans ces cas-là, vous avez cette cuirasse qui vous protège. Il ne faut pas se laisser berner par l'adversaire, comme je disais tout à l'heure. Soyons fermes et sûrs que nous sommes sous la grâce de l'Éternel. Donc rien n'est impossible. Moi, je ne pourrais pas aimer quelqu'un qui m'en veut. Si, tu peux. Tu peux. Et Jésus, il va t'aider si tu lui demandes. Il y a quelqu'un qui m'a fait des crasses dans mon travail, quelqu'un qui a voulu prendre ma place. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Et Jésus, je lui ai dit, ben, aide-moi à l'aimer quand même hein, et à prier pour lui. Parce que Jésus, même si ce garçon ne me voulait pas que du bien, Jésus, il l'aime. Il n'aime pas ce qu'il était en train de faire. Mais Jésus l'aime. Alors imaginez, je dis ça par rapport à ce que j'ai vécu par rapport à quelqu'un de l'extérieur, mais dans l'Église, il faut aussi s'aimer d'une façon inconditionnelle. Si quelqu'un ne va pas, s'il y a un problème, ben, c'est expliqué dans la Bible. On se voit entre deux, d'abord avec la personne, après avec un ou deux témoins. C'est expliqué dans la Bible. On n'est pas parfait, mais on tend à le devenir avec Jésus. Donc, il faut se parler, il faut s'encourager, il faut prier les uns pour les autres, même pour ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous, parce qu'on est frères et sœurs en Christ. Il ne faut pas chercher dans notre famille en Christ des adversaires. On fait partie de la même armée. Alors Jésus, par son Saint-Esprit, il vit en nous. Là-dessus, on est au clair, c'est bon, ok. Pour demeurer en Jésus, il nous faut être enracinés dans la parole qui est la vérité. Dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » On voit ici que, sur les propres mots de Jésus, que la parole qui est inscrite dans la Bible, c'est la vérité. C'est donc sur elle que nous devons nous appuyer, nous laisser enseigner pour nous construire. Pas mettre de choses de côté. La parole, les écritures de la Bible sont l'enseignement indispensable pour nous édifier. C'est d'elle que nous tirons notre force et c'est aussi sur elle qu'on doit baser notre intelligence et nos pensées. Et se rappeler ce qu'on a vu dans Jean tout à l'heure, la parole de Jésus, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors on le sait, je le disais tout à l'heure, mais il faut que l'on prenne du temps pour Jésus, avec Jésus, dans la prière et l'adoration. Et c'est ainsi que petit à petit, son Esprit, Esprit Saint, il déversera en nous son amour. Parce que quand on se dit « mais moi, je ne peux pas aimer quelqu'un qui me persécute », humainement, ça se comprend. Mais Jésus nous demande autre chose. Quelque chose qu'on peut pas, qu'on sait pas faire. C'est comme pardonner. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est dur. Mais à partir du moment où on demande à Jésus de nous aider, il nous entend et il nous aide. Pour pardonner, c'est tellement difficile. Et pour aimer, même ceux qui nous persécutent, même pour ceux qui nous font du mal, même pour ceux avec qui nous avons des difficultés relationnelles, Jésus va nous apprendre et nous aider à aimer. Comment être bénédiction si on ne rentre pas chaque jour un peu plus dans l'amour ? Alors, quand l'opportunité nous est donnée de vivre des temps ensemble, déjà entre nous, ben, autant que ça dépende de nous, essayons de nous retrouver, que ce soit à la maison de prière et d'adoration, pour passer du temps avec Jésus, simplement pour passer du temps avec Jésus, mettre un temps à part avec Jésus. Essayons de modifier notre agenda, notre planning, pour y placer les temps les plus importants qui sont les temps avec Jésus. Moi, j'ai du boulot à faire de ce côté-là. Vous, je ne sais pas. Mais vous y réfléchissez. Il y a des veilles de prière à la maison d'adoration et de prière. Daniel vous en parlera, parce qu'elle porte ça dans son cœur. Imaginez à un moment que ces réunions de prière et d'adoration puissent se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginez la bénédiction de Christ qui va se répandre sur nous et sur la ville d'Angers. Imaginez l'amour qui va descendre sur chacun d'entre nous. Imaginez que l'on découvre le véritable amour. l'amour de Christ. Vous imaginez un petit peu la transformation de vie que ça va faire pour soi, pour notre communauté, mais aussi pour la ville d'Angers. Dans Matthieu 21, verset 13, il est dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. » Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons être aussi, chacun d'entre nous, une maison de prière, et nous pouvons nous rassembler pour la prière, pour l'adoration. Et franchement, ça changera tout. On peut faire tous les programmes que l'on veut, toutes les... Il y a plein de bonnes choses à vivre, à faire, à... mais si on ne les fait pas avec le Seigneur, si on n'a pas cette proximité avec le Seigneur, eh bien, il ne se passera pas grand-chose. Mais si on apprend à développer, et moi je parle pour moi, hein, je vous le dis encore, hein, à développer notre amour les uns pour les autres, waouh, ça va tout changer. Ça va tout changer. Notre cœur va changer. Notre regard sur les autres va changer. Et si notre regard change, si on apprend à aimer, les gens vont se sentir aimés, vont se sentir accueillis, vont se sentir importants. Comme nous sommes importants aux yeux de Jésus. Comment attirer le monde à venir découvrir qui est Jésus? On ne peut pas le faire sans l'amour. Allez, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole précieuse qui nous donne la vie. Cette parole qui, comme tu le dis, ne doit pas s'éloigner de nous et cette parole qui nous permet d'avancer avec toi. Merci pour tout ce que tu fais jour après jour. Merci de nous aider continuellement dans notre progression avec toi, pour toi. Merci de transformer nos cœurs afin que l'on puisse aimer comme tu aimes. C'est tellement grand qu'on se dit, mais ça va être impossible. Mais toi, tu es là. Tu es là pour nous aider, pour que ça devienne possible. Ouais, viens transformer nos cœurs au plus profond. Viens enlever ce qui n'est pas de toi afin qu'il puisse y avoir vraiment de la place pour toi, rien que pour toi. Viens émonder, viens couper les branches des choses inutiles qui sont en nous et qui nous empêchent de te laisser pleinement la place. Viens nous aider à être bénédiction pour les autres par ton amour en nous. Que cet amour puisse vraiment se répandre comme un parfum de bonne odeur qui vient se répandre partout où nous passons, qui vient se répandre sur la ville où nous sommes, où nous vivons, sur notre entourage, notre famille. Que cet amour se répande partout où nous allons, qui est vraiment cette bonne odeur de ton amour qui se répande à travers nous. Aide-nous à être vraiment des ouvriers avec toi, des ouvriers fidèles pour te suivre continuellement, que l'on cesse de regarder à nous-mêmes et que je cesse de regarder à moi-même pour regarder à toi, uniquement à toi, pour pouvoir avancer pour toi, rien que pour toi, Seigneur. Ouais, Seigneur, viens, transforme-nous. Aide-nous à aimer pour que nous soyons bénédiction partout où nous passons. Amen. Soyez bénis.